La vigne dans les fermes du Barouergue au siècle dernier. Une émission proposée par Monique Servière. Retour sur les petits vins perdus des coteaux du Ségala.
Salut Pato.
Ils sont toujours là, présents dans ces noms de rue. Rue du Pressoir, rue de la Bouteille, rue des Vignerons. Vous avez reconnu, bien sûr, les noms des rues de la Bastide de Villefranche-de-Rouergue. Autant de noms qui nous enchantent. Ils confirment l'importance de la vigne dans notre passé rouergue. Je suis allée à la rencontre d'anciens qui vivent ici, dans les fermes, ou de plus jeunes, qui assureront la relève, c'est sûr. Tous amoureux de la vigne. Ah, faire renaître le temps d'une discussion autour d'un verre, ces coteaux ensoleillés, ces moments entre voisins. Écoutons-les.
Ici, tous les paysans qui avaient dans le coin, ils avaient une vigne. Quand arrivait le mois de septembre-octobre, tous les jeudis ou samedis, on allait vendanger chez un ou chez autre coin.
Il y avait plus de monde à la maison pour boire du vin, en fait. C'est-à-dire que...
Voilà, ouais.
Bon, mais voilà, il y avait les parents, il y avait les grands-parents, il y avait un oncle, une tante, des cousins, de la famille. Il y avait tout le temps un peu de monde à la maison, quoi. Mais voilà, pour abreuver un peu tout ce monde-là, il fallait bien...
Et puis, jusque dans les années 60, quelqu'un venait à la maison, si tu veux. Maintenant, on va offrir un café, ouais. On va offrir un apéritif, on va offrir... Mais on ne passait pas un verre de vin. Alors que systématiquement, c'était un verre de vin. Il fallait boire le vin de la vigne.
D'ailleurs, justement, on peut peut-être essayer de le goûter, puisque vous êtes là.
Super, avec beaucoup de plaisir, c'est vraiment... Je serais absolument ravie. C'est le vôtre ?
Ouais. Oui, ah oui, oui.
Oh, quel bonheur. Quel bonheur.
Du coup, là, on va goûter la...
Et disons que... Moi, j'ai pris le relais... Disons que c'est mon père, beaucoup, qui s'occupait de la vigne, quoi. Mmh. Moi, je m'en occupais pas trop, et puis bon, ça me faisait suer quand il fallait sulfater la vigne. À la fin, là, il pouvait pas y aller, lui, il fallait que j'y aille, il fallait désherber la vigne, ce que je n'aimais pas. Il fallait. Voilà, bon, c'est lui qui l'a taillé, et j'ai pas taillé la vigne, jamais. Jamais j'ai taillé, jamais il m'a.
Ah oui ?
Ouais.
Je sais pas.
Alors, après, quand mon père avait saillé, les enfants, ils ont dit, mais cette vigne, quand même, il faut la.
Ouais, il faut essayer de la...
Il faut la maintenir, il faut la garder, c'est dommage, quoi. Bon, c'est tout un patrimoine. Hein.
Quel joli bruit.
Eh bien, vous ne l'avez pas goûté encore. Hein.
Et voilà, c'est parti comme ça, c'est les enfants qui m'ont... Parce que si ça avait été... Je ne sais pas si ça avait été que moi, je crois que je ne l'avais pas gardé. Quoi.
Ouais, franchement, j'ai peut-être, ouais.
C'est vous qui m'avez boosté pour que je la garde, mais bon... C'est du vrai, de l'authentique.
Je suppose que tu en veux.
Oui.
Au début du 19e siècle, tout le monde voulait boire du vin. Donc le vin, c'était la boisson qu'avait véhiculé l'Église. Donc tout le monde voulait boire du vin. Il n'y avait pas de moyens de transport à l'époque, donc le vin, on le produisait sur place. Donc tous les agriculteurs qui avaient un terrain propice à la vigne, plantaient de la vigne. Et donc, il y avait 20 000 hectares dans le département de l'Aveyron. Donc, actuellement, il en reste à peu près 500, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, la vigne, on la plantait partout où on pouvait, partout où ça poussait, on plantait la vigne, puisque les gens consommaient des grosses quantités. Les agriculteurs qui, à l'époque, partaient sans tracteur, partaient bêcher toute la journée, qui se levaient le matin au soleil, qui se couchaient au soleil, ils partaient avec la casse-croûte et du vin. Et donc les gens buvaient 3, 4, 5 litres de vin par jour. Mmh. Et donc il fallait, on ne pouvait pas l'acheter parce que ça coûtait soit cher, donc on plantait la vigne. Donc tous les coteaux, toutes les parcelles au bord de l'Aveyron, au bord du Vior, au bord du Tarn, mais toutes les parcelles qui étaient pauvres, qui ne supportaient pas la culture, on plantait la vigne.
Donc chacun avait sa petite propriété, son
celui
petit...
qui avait un peu de terrain. Les gens qui avaient moins d'argent n'avaient pas de vigne, mais sinon on plantait partout. Mmh. Pour donner une idée, moi j'avais un client à Sergi qui m'expliquait qu'il avait une grosse propriété, il avait un ouvrier agricole qui lui buvait 5 litres par jour, son cousin qui travaillait avec lui buvait 3 litres par jour, et lui en buvait 2. il y a 10 litres par jour, ça vaut quand même le coup de planter de la vigne.
Bien sûr. Bien sûr.
Alors après, il y avait de tout. Il y avait de tout. Il y avait des gens qui produisaient des vins de qualité, il y en a qui produisaient moins bons. Au départ, c'était des cépages greffés, puis après, il y a eu les hybrides. Il y avait des hybrides, c'était plus facile à travailler parce qu'il n'y avait pas besoin de traiter. Pas sensible aux maladies, on n'était pas obligé de traiter la vigne au moment où on faisait le foin. Et donc on avait des vins beaucoup plus ordinaires, hein. Des vins qui faisaient 7-8 degrés. Parce que dans certains travers, ça avait du mal à mûrir. Hein. On ne se posait pas de questions. Si c'était bon, on le buvait. Si c'était pas bon, on le buvait quand même.
Et quels étaient les cépages ici plus fréquemment, j'ai envie de dire, plantés?
Je n'en ai aucune idée. J'ai jamais trouvé d'écrit, je ne sais pas, ouais. Je sais pas quel était le cépage qui était le plus planté, mais je pense que les cépages de Marciac étaient là depuis longtemps. Hein. Mm-hmm. Puisque c'était les moines qui étaient venus à Conques, qui avaient apporté les cépages pour faire Serrano pour planter à Marciac. Donc ces cépages étaient là, donc il y avait des régions où il y avait des cépages nobles, puis après il y avait un peu de tout. Mm-hmm. Tous les cépages. Dans le sud d'Aveyron, il y avait des cépages de Syrah, du Languedoc, de Cinsault qui revenaient parce que c'est un climat plus chaud. Et le Aveyron, c'était sur les mêmes cépages qu'aujourd'hui.
Ce qui était sur le coton, là, ça me disait, bon, il n'était pas, mais si, j'étais correct. Hein. Oui. Parce qu'on avait eu fait voir combien il faisait de degrés, 8,5.
Ah, pas mal.
Ah non, mais il n'était pas...
Ah, pas mal, 8,5.
Ah, oui, 8,5, et même, je sais qu'une année, je ne sais pas qui c'est qui avait fait aussi, 9. Enfin, beaucoup entre 8 et 9, voilà.
Et ils se buvaient du vin dans les fermes, les hommes qui travaillaient avaient besoin.
Ils se buvaient, moi je sais que... Mes parents, ils comptaient 4 barriques par an. 4 barriques de 100 litres, ça fait 800 litres, ça faisait... 2 litres par jour.
Dans une famille.
Oui,
mais c'est l'homme qui le buvait.
Oui, moi aussi. Alors, les femmes buvaient un verre de vin. Hein.
Ah oui. Oui. Oui, mais pas, c'est qu'elles travaillaient dur quand même.
Pas. Mais oui, mais bon, 2 litres de vin par jour, une. Oui, c'était. Bon, c'était du vin à 8,5. C'était pas du 13, du 14.
Alors après, il y avait ce qu'on appelle la piquette. La piquette, souvent dit, la piquette, c'est ce petit vin qui n'est pas très bon. En fait, quand ils avaient vendangé, ils mettaient de l'eau sous la vendange, ils faisaient represser, et on faisait un vin qui faisait 3-4 degrés, qu'on appelait la piquette.
Oh, c'était ça, la piquette.
Alors la piquette, il y a quelque chose par rapport à ça, la piquette, qu'il faut dire, c'est que la piquette, elle était toujours chez les autres, elle n'était pas chez soi. Chez soi, on avait du bon vin parce qu'on entretenait la futaille, on lavait bien les barriques, on vendangeait dans de bonnes conditions, tout, on mettait le vin en barrique quand il fallait, tout, on regardait la lune, tout, et on avait du bon vin. Mais le voisin, quand il venait boire un verre de vin chez vous, ben, son estomac n'était pas habitué, quoi. Il disait, ouais, putain, son vin est dégueulasse, on peut le boire. En fait, l'estomac s'habitue à un vin. Si on boit le vin pendant 2 ou 3 mois, après, quand il arrive le moment où il va faire chaud, où il va commencer à tourner un peu, il va commencer à piquer, l'estomac y est habitué et voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Mais moi, je me rappelle, mon beau-père, il allait boire du vin, par exemple, chez un beau-frère à lui qui habitait le Moron, là, au-dessus de Villefranche-de-Rouergue. Et puis, il lui versait un verre de vin, mais une bouteille on lui a amené une bouteille de vin vieux, et c'était imbuvable pour lui. Il n'y avait que son vin qui était bon.
Quand je bois du vin clairé, la nuit tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois en jouant bois. Quand je bois du vin clairé, la nuit tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois en jouant bois. Chantons et buvons à ce plafond, faisons la guerre. Chantons et buvons les amis, buvons donc. Chantons et buvons à ce plafond, faisons la guerre. Chantons et buvons les amis, buvons donc. quand je vois du vin clairé, l'ami tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois en jour ou en bois. Quand je bois du vin clairé, l'ami tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois en jour ou en bois. Chantons et buvons, à ce flacon faisons la guerre. Chantons et buvons, les amis, buvons donc. Chantons et buvons, à ce flacon faisons la guerre. Chantons et buvons, les amis, buvons donc. Quand je bois du vin clairé, l'ami tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois en jour ou en bois. Quand je bois du vin clairé, l'ami tout tourne, 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 tourne.
Bon, autrefois, je vous ai expliqué comment on faisait. On vendangeait, on coupait le raisin, mettait dans des paniers. Les paniers, après, il y avait des transporteurs qui passaient dans la vigne avec une corbeille. Avec un cabessal, c'était quelque chose qu'ils mettaient sur la tête. Ils mettaient la corbeille sur la tête et ils vidaient dans le fouloir. Il y avait quelqu'un qui broyait la vendange. Tombait à la cuve, quand la cuve était pleine, on allait ici. On avait une tonne. La tonne, c'était, pouvait contenir 3 cuves. C'était un grand récipient en bois. Et là, on mettait ça là-dedans. Bon, et après, ce qu'ils faisaient, ils mettaient des madriers sur la vendange, quoi. Et avec des grosses pierres, quoi. Et de temps en temps, ils allaient enfoncer la vendange, c'est-à-dire que tout se mélange bien, mais très peu. Mon père ne le faisait pas beaucoup, parce qu'à la fin, là, on le mettait dans une seule cuve qui faisait la capacité de 3 barriques à peu près. Il mettait des madriers, il mettait 3 ou 4 aglots dessus, et comme ça, pendant 10 jours, on ne touche rien, quoi. Alors ça se mettait à fermenter, et voilà, au bout de... Quand il s'arrêtait de bouillir, tout ça, de travailler, on menait la cuve au-dessus de la cave, on mettait un siphon, un tuyau, qu'on met ça en bas, toute la rafle montait en haut. Et le jus restait en bas. Et là, on siphonnait, comme la cave était en dessous, tout le vin, on le siphonnait et on le mettait directement avec le tuyau dans les barriques. Donc on prenait la rafle, on la mettait dans le pressoir, on mettait les taquets, on mettait un peu de paille dessus, on pressait et là il ressortait, moi je ne sais pas moi, c'était le vin du pressoir qu'on appelait, celui qu'on buvait en premier en principe.
Et il y avait des traditions là autour de cette cueillette, autour de ce...
Oh, il y avait une tradition qui faisait que, par exemple, les jeunes, ils s'amusaient beaucoup entre eux. Et soit ils prenaient une grappe de raisin, ils l'esclaffaient sur le visage d'une jeune fille. Voilà, quoi. Et ça se faisait pas mal, quoi. Oui.
Les outils avaient des noms particuliers en Occitan. Vous pouvez nous en dire quelques-uns.
La cuve, la tourne, c'est là où on mettait le... Après il y avait la barrique, hein, alors il y avait un endroit où on mettait les barriques à la cave, c'était 2 gros matriers épais, ça s'appelait, il l'appelait l'oussel. Sur l'oussel en occitan, c'est le ciel, quoi. Après le fouloir, c'était l'espoutidou pour écraser. La sémale, c'est la grande bassine où on recueillait le vin pour soutirer le vin.
Et il y avait des chansons qui revenaient comme ça pendant les vendanges ou...
Il y avait des chansons, il y avait le mât de Mespoul, c'est l'oubéoulé sans aïe, tel qu'il dit, nous le boirons sans eau, tel que Dieu nous l'a donné, vive le mât de Mespoul, c'était un mât où il se faisait du vin. Il y avait le mas de Tézic, il y avait des mas. Le mas de Tézic, c'était un peu une guinguette où les gens, ils allaient danser le dimanche, tout ça, et ils faisaient du vin aussi.
Quand je bois du vin clairé, l'ami tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois en jour ou en bois. Chantons et buvons, à ce flacon faisons la guerre. Chantons et buvons, les amis, buvons donc. Chantons et buvons, à ce flacon faisons la guerre. Chantons et buvons, les amis, buvons donc. Quand je bois du vin clairé, l'ami tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois en jour ou en bois.
Et après, on reprenait ces grappes et on allait les porter à l'alambic pour faire le marc. Ça, c'est l'eau de vie de marc.
Et vous faisiez plusieurs bouteilles, plusieurs litres par famille?
Ah, ben, en principe, on avait droit à 1000 degrés, ce qui faisait 18 litres. Parce qu'il sortait à 55. En principe, c'était ça. Mais on en faisait plutôt 30 litres. Parce que la première qui coulait, on allait la cacher. Et parce qu'il fallait que, il fallait qu'elle reste sur le chantier de l'alambic et il fallait agir chez Anaclite au buraliste. C'était souvent le bureau de tabac qui vendait ça, qui donnait la quitte. Et t'avais mettons qu'une heure pour aller de l'alambic à chez toi pour le porter. Alors souvent, ce qu'on faisait, si on y allait le matin, à midi, on prenait celle qui était pas déclarée. Et après, on revenait à chercher le soir. Bon, ça, même les répressions des fraudes, vous savez.
Pas le Zonga, là-bas. C'est bien Zonga. Et alors, lui, une fois, c'était la route, elle n'était pas zonée, c'était en Pierrée. Et on avait des roues, des roues en fer, disons. Et alors, on faisait nos devis au mois de novembre ou décembre. Et alors, il fallait aller avec les bœufs, la vendange, là-bas, et voilà. Et puis tu pouvais retirer l'eau de vie que le soir, après 5-6 heures. Alors, le gars en question, il était revenu pour chercher la bonbonne, et puis tant que l'eau coulait à la vie, il en buvait beaucoup, tu comprends? Seulement, il en avait bu aussi peut-être à midi, et il était presque tous les jours, il en buvait bien assez. Alors, quand il a voulu repartir, il a pris sa bonbonne sur le dos, il est reparti à pied. Seulement, comme il avait bu un bon coup, il est tombé par terre, la bonbonne s'est cassée, et l'eau de vie, elle s'est répandue dans la rigole qu'on avait fait la roue, tu comprends? Et il prenait cette eau de vie, alors il s'est mis à plat dans la mousse, si on peut dire, et il buvait l'eau de vie qui était dans la roue, là. Alors, ça, c'était pas l'eau.
Mais après, ça s'est arrêté parce que, bon, les vignes, avec le temps, elles ont vieilli un peu. Bon, il y en a qui ont... Il y a beaucoup d'agriculteurs, de paysans qui se sont découragés. Ils ont dit, oui, mais j'ai... Et puis les vignes qui crèvent, il y a des maladies, tout ça. Ils ont arrêté.
On n'a pas replanté parce que le vin était de mauvaise qualité. Puis petit à petit, l'exode rural. Et donc, petit à petit, ça a disparu. Puis après, il y a eu le contrôle de l'alcoolémie, il y a eu plein de choses qui font que le vin n'est plus devenu une boisson de tous les jours. Alors qu'avant, c'était considéré comme un aliment. Tout à l'heure, on a parlé des mineurs. Je pense que les mineurs, à l'époque, avaient des alimentations qui n'étaient pas riches en protéines, ils ne mangeaient pas de la viande tous les jours, et que le vin leur apportait des vitamines,
des sels minéraux,
voilà, permettaient de tenir.
Et puis bon... C'est vrai que dans les années 60-70, il y avait le médecin qui leur disait surtout pas manger charcuterie ni boire de vin, quoi. Et bon, c'est vrai que à partir de ce moment-là, ils ont arrêté de boire du vin, ils ont raté la... On ne tuait plus le cochon, mais il y a beaucoup de... Oui, culturellement, il y a beaucoup de trucs qui se sont arrêtés dans les années 60-70.
Est-ce que vous êtes heureux que votre fils reprenne un peu cette
culture?
Oui, bien
sûr. Oui. Oui, quand ils m'ont dit, là, les enfants, « Ah, oh, mais la vigne, papy, nous, on replantera, mais on... Ah, ça me fait un plaisir. » Mais c'est vrai que c'est Adrien qui s'en occupe, parce que moi, j'ai un coup de main. Quoi. Avant d'anger à boire le vin, surtout.
C'est donc vous qui avez eu le désir de reprendre ces vignes?
Ben ouais, parce que c'est vrai que... Même étant gamin, j'ai vraiment le souvenir du papy qui, chaque fois qu'effectivement recevait quelqu'un à la maison, c'était ouais, faut que tu goûtes le vin de l'année. Et donc, du coup, ça, voilà, ça résonne un peu. Ça, c'est un souvenir vachement fort pour moi, en fait, de savoir que bon, mais voilà, chez toi, t'as un bout de vigne. Donc, du coup, quand tu reçois quelqu'un,
il faut qu'il goûte le vin,
en fait. Et donc, du coup, ouais, pour moi, c'est quelque chose d'assez fort que j'ai gardé. Et donc, du coup, quand. Comme disait papa quand il est décédé, le papy.
Ouais.
Ouais, ça aurait été dommage, on aurait perdu quelque chose de plus en fait, quoi. Vraiment, si on n'avait pas continué ça.
Voilà, mon verre est terminé. Et l'émission aussi. Grand, grand merci à Adrien et Francis Alette de Naujac, à l'aide du Kaila, à André Antoine, à Jean Pommiès et à Philippe Lafont. Leur mémoire est précieuse.